Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons commencé à esquisser un tableau de la situation du retour de Confucius en Chine depuis les 10 dernières années. Nous avons vu que, après la crise financière asiatique de 1997, qui a calmé quelque peu la fièvre du Confucius Economicus, le retour de Confucius en Chine continentale ne s'en est pas trouvé stoppé pour autant. Je dirais même presque au contraire. Donc depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire la fin des années 1990 et le début de nos années 2000, le processus, on l'a vu, est en train de se déployer en un faisceau de phénomènes multiformes, complexes et imbriqués les uns dans les autres, qui touchent toute la Chine continentale, donc de l'échelle nationale à l'échelle locale et tous les niveaux de la société, avec des rapports complexes entre l'officiel et le non officiel. Alors, même s'il est malaisé de distinguer clairement entre un mouvement de haut en bas, un mouvement top-down, comme on dirait en anglais, et un mouvement de bas en haut, donc bottom-up, nous avons surtout évoqué la dernière fois un mouvement de haut en bas, puisque, si vous vous souvenez, nous sommes partis donc de la fameuse directive du Parti communiste chinois de société d'harmonie, le He Xie She Hui. Et nous avons passé en revue aussi les principales initiatives officielles, donc Quanfang dans le vocabulaire chinois, qui affichent toutes le nom, et je serais tentée de dire même le logo de Confucius, et qui se trouve affichée toute également donc une ambition internationale. Vous vous souvenez sans doute que nous avons parlé des instituts Confucius qui arrivent maintenant jusque chez nous, donc en Europe, en France. Nous avons parlé des différentes fondations Confucius, dont maintenant beaucoup sont internationales. On insiste beaucoup sur la dimension internationale. Nous avons également de multiples associations Confucius, également qui affichent donc l'ambition internationale. Et puis nous avons une multiplication pléthorique donc d'instituts ou de centres de recherche Confucius. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai été jusqu'à maintenant obligée de cadrer très large pour contextualiser ce phénomène massif de retour de Confucius en Chine et aussi pour montrer le rapport étroit que la figure de Confucius entretient avec la question de la modernité, qui occupe encore largement donc les esprits actuellement. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à nous nous concentrer plus spécifiquement sur différentes formes du retour en grâce. Du texte des entretiens de Confucius, du Lun Yu. Alors, nous allons voir que ce retour en grâce se fait sur quelques terrains principaux, mais là aussi, vous voyez que tout de suite que nous sommes dans quelque chose d'extrêmement complexe, parce que ces terrains ne sont pas étanches les uns par rapport aux autres. Encore une fois, nous avons des imbrications multiples entre ces différents terrains. Alors, je distinguerai, comme je l'ai annoncé la dernière fois, donc un terrain politique, parce que en Chine, notamment en Chine actuelle, c'est toujours par là que les choses commencent. Donc, un terrain, disons, officiel, de discours officiel, qui vient donc du pouvoir politique. Ensuite, un terrain éducatif. Et là, nous allons voir que les entretiens de Confucius reprennent un rôle central qu'ils ont joué auparavant. Un terrain médiatique, qui est en train de faire beaucoup parler de lui en ce moment. Et enfin, donc, un terrain, disons, intellectuel ou universitaire. Alors, nous nous sommes quittés la semaine dernière sur quelques images dont certaines ont pu choquer donc, les plus sensibles parmi vous, donc des images quelquefois assez monstrueuses, de l'Institut de recherche Confucius à Chufu, Chufu qui est donc le lieu de naissance de Confucius. Alors, la dernière fois, je n'ai pas pu justement terminer là-dessus, et je commencerai aujourd'hui par compléter donc cette visite de l'Institut, non, plus exactement cette visite à Chufu que j'ai faite en septembre 2007, et donc c'était en fait à l'occasion de l'anniversaire de Confucius, juste avant donc les Jeux olympiques de Pékin de d'août 2008. Donc c'était intéressant de se trouver donc à Chufu à ce moment-là, parce que nous avons, comme vous allez le voir, une imbrication totale entre la célébration donc de la figure de Confucius et donc la propagande olympique. Évidemment, vous me direz sans doute que le lien entre les entretiens de Confucius et les Jeux olympiques n'est pas évident à première vue, mais vous allez voir que c'est possible. Alors, je vous ai parlé précédemment donc de l'instauration justement de ces célébrations annuelles et en grande pompe à partir de septembre 1984. Donc là, nous sommes encore au début des années 1980, c'est-à-dire donc au tout début justement de ce mouvement de réhabilitation donc de Confucius après sa démolition en règle par la révolution culturelle. Alors, ces célébrations ont lieu de manière concomitante et je dirais presque concurrente à Pékin, donc dans la capitale, mais aussi donc localement à Chufu. Mais ces cérémonies prennent aussi une dimension médiatique, puisqu'elles sont retransmises à l'échelle nationale par la télévision centrale. Donc le sigle anglais, c'est CCTV, donc Chinese Central Television. Et soit dit en passant, ça m'amuse toujours, parce que CCTV en anglais, ça désigne aussi les caméras de surveillance. Bien. Quelqu'un, je pense, à la fin du cours de la semaine dernière, venait me demander justement ce retour de Confucius concernait aussi les populations dites non Han, c'est-à-dire donc ce que la Chine communiste appelle les minorités ethniques, c'est-à-dire celles justement qui ne relèvent pas officiellement de l'ethnie dominante, c'est-à-dire l'ethnie Han. Donc, et là, je pense que justement par la diffusion de ce genre d'émissions, en fait, nous avons quelque chose qui relève peut-être d'une influence à l'échelle nationale. Alors que ces minorités ethniques y soient sensibles ou non, ça c'est un autre problème. Hein, mais je pense que la télévision centrale a quand même les moyens d'arroser, si j'ose dire, en fait le pays tout entier. Alors là donc nous repassons donc très rapidement ces images, justement cette image un petit peu choquante. Donc, donc nous en arrivons à célébrations donc de l'anniversaire de Confucius. Alors qui commence l'enceinte du temple de Confucius à Chufu. Alors là, vous voyez que on a mobilisé la jeunesse locale, les collégiens et les lycéens pour comme porte-drapeau pour former une haie d'honneur donc pour le début du pour l'arrivée donc des invités. Hein. Bien. Alors vous voyez la télévision dont je vous parlais est bien en place. Hein. Et donc on a cru bon de distribuer donc à tous les invités une écharpe jaune avec donc l'effigie de Confucius brodée dessus. Alors cette couleur jaune est peut-être pas très appropriée parce que ça pourrait faire penser en fait à plutôt une secte bouddhique, hein, mais enfin bon, j'imagine que c'est par référence aussi au jaune impérial. Hein. Alors, voyez, là, nous avons les petits pionniers, donc avec leur foulard rouge, qui ont été mobilisés. Donc là, voyez, c'est quelque chose qui met en avant très largement donc la jeunesse, hein, puisque il s'agit au fond dans cette propagande à la fois de toucher donc l'international, mais aussi de remoraliser la jeunesse. Et alors là donc sur les bannières que vous avez ici donc sur l'enceinte extérieure donc du temple, vous commencez déjà à voir quelque chose que nous allons voir plus en détail tout à l'heure, à savoir donc des bannières qui portent chacune une sentence extraite des entretiens de Confucius. Alors, vous voyez, enfin, nous sommes dans, comment dire, une sorte de réappropriation de la tradition, mais qui donne aussi dans le folklorique. Là, vous avez donc quelqu'un qui est costumé en soldat, alors d'une époque plus ou moins indéterminée. Et donc là, vous avez, nous sommes là dans l'enceinte du temple. Vous voyez donc de chaque côté donc le titre donc de la cérémonie qui est donc en l'honneur de Confucius. Et alors donc sur la balustrade du bas, vous voyez là aussi des armées de collégiens ou de lycéens donc qui scandent ces sentences donc des entretiens. Voilà, alors ce que ça donne, l'escalier d'honneur. Alors vous avez un mélange très curieux donc de gens qui sont costumés l'espèce de soldat qu'on a vu à l'entrée des officiels ici donc en costume parfaitement occidental, donc costume cravate. Voilà. Alors voilà. Alors là, nous sommes donc le spectacle, si j'ose dire, a commencé. Nous avons quelque chose qui se veut une évocation des anciennes danses rituelles qui se tenaient donc dans l'enceinte justement des temples de Confucius dans la Chine traditionnelle. Alors vous avez des danseurs avec donc des plumes de faisan, hein, qui sont censés évoquer donc ces danses rituelles. Alors évidemment, voyez, alors là il y a une espèce de chorégraphie assez approximative qui a été en fait, je pense, copier en fait sur ce qui se fait en Corée du Sud, parce que là, inutile de vous dire que ça fait quand même belle lurette qu'en Chine on a oublié comment on faisait ce genre d'exercice. Alors, l'exercice de prosternation. Là, vous avez donc toujours ce curieux mélange de gens déguisés avec ces officiels, costume cravate et la fameuse écharpe jaune. Alors, vous commencez donc à voir défiler ces banderoles qui portent chacune donc une de ces fameuses sentences des entretiens de Confucius. On verra tout à l'heure plus en détail en fait ce que disent ces banderoles, mais voyez qu'elles sont affichées tour à tour. Il y en a à peu près 4 ou 5. Là, j'ai pas pu les prendre toutes en photo, mais je voulais quand même attirer votre attention. C'est évidemment les photos sont trop floues pour que vous voyez, mais si vous les voyez de près, vous verrez qu'il y a ici le logo donc des Jeux Olympiques et la mention donc du comité d'organisation donc des JO de Pékin 2008, et en bas vous avez donc la mention du comité d'organisation de Chufu, des célébrations internationales donc en l'honneur de Confucius. Donc là vous avez vraiment sur la même banderole donc un extrait des textes des entretiens donc pris en sandwich donc entre la référence aux Jeux Olympiques et donc le comité officiel d'organisation locale. Bien. Donc là, le bal costumé continue. Donc, alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir ensuite donc ces mêmes danseurs dans les coulisses, donc se déshabiller. Vous voyez que ce sont donc des jeunes de la localité qui, en dessous, en fait, portent des jeans et des baskets. Hein. Donc, il faut pas trop se laisser impressionner. Donc, voyez, enfin là, vous avez toujours ces prosternations. Et donc là, quand on quitte justement cette espèce de mascarade, donc on retourne alors justement sur les lieux, disons, historiques confucéens, puisque là nous sommes en fait dans ce qu'on appelle le Kronlin, c'est-à-dire donc la forêt des Krong, c'est-à-dire c'est une forêt évidemment avec des arbres, mais aussi une forêt de stèles, puisque nous avons aussi des stèles funéraires, c'est une sorte de cimetière en fait. Et vous avez donc ici, je vous la montre, une statue donc d'un lettré fonctionnaire confucéen, dont je soupçonne qu'elle figure également sur la couverture de ce livre sur le Boston Confucianism que je vous montrais il y a une ou deux semaines, avec donc justement cette superposition de cette statue avec les gratte-ciels d'une mégapole moderne. Alors, voyez, là, nous avons un lieu qui est autrement plus tranquille, qui est de toute beauté, où on sent véritablement quelque chose de l'ancien temps. Hein, donc, très loin, en fait, de l'agitation donc médiatique de ce cirque confucéen. Alors, la leçon que je tirais de ce show télévisuel que nous venons de voir, c'est que finalement cette fameuse quête de corps et cette prétendue réactivation des rites apparaît véritablement comme une assez triste farce, puisque elle ne montre que trop clairement que l'esthétique rituelle, avec sa gestuelle, sa chorégraphie, son langage corporel, semble définitivement perdu. Là, nous n'avons qu'une espèce de mascarade. Alors, pour revenir donc un instant sur les extraits justement des entretiens de Confucius qui étaient donc utilisés et scandés donc dans le cadre de ces célébrations. Là, je vous ai donné le texte et donc la traduction de ces cinq citations qui ont été donc prélevées sur le texte des entretiens, de manière, je pense, assez arbitraire, mais qui toutes font référence à quelque chose qui peut servir la propagande donc des Jeux Olympiques, à tel point que on a vu les concepteurs de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin en août dernier. Donc vous savez que cette cérémonie d'ouverture a été réalisé et conçu par le cinéaste Zhang Yimou, un cinéaste très, très connu donc à l'étranger. Et donc, ces concepteurs ont effectivement fait scander certaines de ces phrases tirées des entretiens par donc des soldats de l'Armée populaire de libération, de l'APL, déguisés en lettrés confucéens. Ceux d'entre vous qui ont vu cette cérémonie, peut-être en direct ou à la télévision, se rappellent peut-être ce tableau assez hallucinant donc d'une armée, là au sens le plus littéral du terme, donc de gens déguisés donc en lettrés, et qui en fait on les entendait pas bien, mais qui scandaient justement certaines de ces phrases. Alors la première phrase, en fait celle qui a été le plus utilisée, je pense que c'est la deuxième phrase, à savoir donc Yo Peng Ziyuan Fang Lai Pui Le Hu, c'est-à-dire avoir un ami qui vient de loin, n'est-ce pas une joie. Là, vous avez ça donc dans le tout premier paragraphe donc des entretiens de Confucius, et c'est vraiment le paragraphe d'ouverture. Et il se trouve que ça colle assez bien évidemment avec donc la propagande olympique, puisque évidemment la Chine accueillait chez elle le monde entier. Alors évidemment les amis étrangers donc étaient accueillis avec cette phrase des entretiens. Alors deuxième phrase aussi. Donc qu'on peut assez facilement raccorder à l'esprit olympique, si on veut, c'est cette phrase numéro 1, donc « Se hai zhenei, jie xiong di ye », donc à l'intérieur des quatre mers, c'est-à-dire donc dans le monde connu, nous sommes tous frères, tous sont frères. Alors là, évidemment, nous donnons évidemment dans le l'angélisme et le consensualisme olympique. Et puis ensuite, vous avez trois autres phrases qui sont censées être emblématiques donc de l'esprit des entretiens. Et j'ose espérer que je vous montrerai que. J'ose espérer justement que je pourrais vous montrer que les entretiens ne se réduisent pas à ça. Alors vous avez donc cette phrase sur laquelle nous serons amenés à revenir d'un point de vue plus historique, qui est donc la phrase dont on a dit qu'elle résumait en fait la règle d'or, à savoir donc Ji so bu yu wu shi yu ren, c'est-à-dire donc ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Alors là, ça commence à devenir plus difficile de raccorder ça avec donc la propagande olympique, mais je pense que ici c'est une phrase qu'on a choisie parce que on a estimé qu'elle était au cœur de l'esprit des entretiens. Et d'autre part, je pense, et ça concerne aussi les phrases suivantes, On l'a conservé aussi pour son rythme symétrique, hein, c'est-à-dire vous avez quatre syllabes, qi suo bu yu wu shi yu ren. Donc quand vous voulez obliger les gens à scander ça, hein, c'est pratique d'avoir un rythme symétrique. Alors la phrase suivante est elle sur un rythme de 3 et 3, donc te buku piyolin, la vertu. Hein, ne reste jamais seule, hein, n'est jamais solitaire, elle a toujours nécessairement des voisins. C'est-à-dire, le sens de cette phrase, c'est que à partir du moment où on exemplifie, on pratique soi-même la vertu, hein, on attire forcément en fait du voisinage, des amis autour de soi. C'est-à-dire qu'il y a là, en fait, quelque chose, évidemment, qui relève de l'enseignement confucéen, à savoir donc qu'à partir du moment où on montre l'exemple d'une vie morale, hein, notamment en tant que souverain, hein, on attire forcément donc les populations en nombre. Hein. Et la dernière phrase, donc toutes ces phrases, je pense que nous sommes amenés à y revenir, mais la dernière phrase est également sur un rythme de 3 et 3, donc « li zhi yong he wei gui », c'est-à-dire donc dans la pratique des rites, hein, c'est l'harmonie he qui prime. Alors là, évidemment, nous avons une référence à peine voilée, donc justement au fameux mot d'ordre de Hu Jintao, donc sur justement la société d'harmonie. Donc ici, il s'agirait au fond de revenir à une sorte de ritualisation donc du lien social, hein, dans laquelle primerait donc l'harmonie. Alors, vous allez me dire, c'est une façon évidemment assez curieuse, hein, d'aborder le texte des entretiens par le biais de cette propagande, mais ça fait véritablement partie intégrante, hein, du retour actuel donc de Confucius. Alors, nous avons vu jusqu'à maintenant, hein, ce retour d'un point de vue, disons, top-down, c'est-à-dire donc de haut en bas. Alors, il y a également un mouvement bottom-up, c'est-à-dire donc de bas en haut, hein, mais comme je vous le disais la semaine dernière, il faut garder à l'esprit que la relation donc entre les directives officielles, hein, le Kuanfang, et les initiatives dites populaires, c'est-à-dire Mingjian, hein, cette relation reste extrêmement complexe et subtile. Hein. Il ne faut surtout pas, sauter à la conclusion que en Chine, toutes les directives viennent du haut, hein, et le corps social, comme un seul homme, se soumet, hein, et suit de façon moutonnière. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut toujours se demander dans quelle mesure les initiatives dites populaires se font ou non avec une volonté d'aller dans le sens officiel, et pour quel motif, hein, est-ce que c'est par réelle conviction ou simplement pour éviter les ennuis, hein, ou pour faire le moins de vagues possible, hein. Ou bien, si la volonté de ces initiatives populaires est de sortir de la ligne, hein, politique du parti, le problème est de savoir comment faire pour louvoyer et contourner donc les contrôles. Hein. Donc là, vous avez un jeu extrêmement complexe auquel nous assistons donc actuellement. Alors, parmi ces initiatives qui iraient a priori plutôt en fait de bas en haut, à partir de la base, nous avons donc une utilisation des entretiens à des fins éducatives. Là, c'est donc le deuxième terrain que j'annonçais tout à l'heure. On observe en effet depuis quelques années un phénomène de popularisation de certains aspects donc, de la tradition confucéenne qui, je vous le signale, commence à attirer l'attention de certains de nos chercheurs, et quand je parle de nos chercheurs, c'est notamment des chercheurs français, qui entreprennent des investigations de terrain dont beaucoup de résultats sont publiés dans certains périodiques en langue française, et notamment donc dans les derniers numéros d'une excellente revue que je vous recommande, qui s'appelle Perspectives chinoises, et qui est donc la revue du Centre d'études français sur la Chine contemporaine, basée à Hong Kong. Je crois vous avoir déjà eu l'occasion de vous dire que Hong Kong a été pendant toutes les années du maoïsme une sorte de, comment dire, de poste d'observation avancé, hein, une sorte de poste de China Watchers, hein, d'observateurs de la Chine. Et cette revue, donc Perspectives chinoises, est née dans ce contexte, mais actuellement elle continue encore d'une certaine manière sa mission de poste d'observation, sauf que là maintenant en fait les chercheurs de Hong Kong peuvent aller maintenant librement donc sur le terrain en Chine. Donc là, je vous donne simplement un aperçu donc des résultats donc de ces travaux de terrain, dans la mesure où ils s'appliquent justement à l'utilisation du texte des entretiens. Donc on a vu que au milieu des années 1990 commence donc une sorte de retour de Confucius par la périphérie, mais qui comprend aussi des mouvements pour le renouveau donc de la culture traditionnelle chinoise, notamment à partir de Taïwan, donc de l'île encore à l'époque soumise donc au régime nationaliste, sous l'impulsion d'individus charismatiques comme un certain donc Wang Caiqi. Ce monsieur, là, j'espère que vous voyez bien, là, toujours la même question rituelle donc aux personnes assises au fond, oui, c'est lisible, oui. Donc Wang Caiqi, donc qui se réclame du philosophe dont je vous ai déjà parlé, donc Mao Zedong, et qui fait un travail donc de diffusion du confucianisme à partir de Taïwan, un petit peu analogue à celui du fameux Tu Weiming, donc de l'universitaire sino-américain dont je vous ai aussi beaucoup parlé, à ceci près sans doute que M. Wang Caiqi se charge plutôt de la diffusion à la base, alors que Tu Weiming, on l'a vu, vise plutôt le monde académique. Alors, Wang Caiqi a lancé donc un mouvement de réappropriation de la culture traditionnelle chinoise qui se focalise principalement sur la lecture des classiques par les enfants. Donc, Er Tong Du Jing. Alors, il s'agit donc d'un enseignement des classiques confucéens, au premier rang desquels les entretiens de Confucius, dans le cadre, non pas officiel, mais le cadre d'école privée, en quelque sorte, ce qu'on appelle les Sishou. Ce sont en fait des écoles privées, donc qui se veulent de type traditionnel. Donc il s'agit de faire lire et de faire apprendre par cœur les classiques par les enfants dès le niveau du primaire. Alors là, justement, il y a donc une photo que j'extrais donc de cette fameuse revue alors Perspective chinoise. Alors là, nous revoyons très rapidement ces photos de la Révolution culturelle. C'est toujours pas mal de voir un petit peu le contraste. Et vous avez ici donc une photo d'une classe. Vous voyez que les enfants sont très jeunes ici, avec un maître dans une petite école privée donc de la Chine du Sud, et vous avez évidemment placardé donc au mur le portrait du maître en bonne place, et vous voyez que cette école en fait ne manque pas totalement de moyens, puisque il y a quand même en fait le matériel donc audio et vidéo, et évidemment le ventilateur, puisque nous sommes dans la Chine du Sud, il fait très chaud. Bien, alors donc ce mouvement donc de lecture des classiques tend à promouvoir des méthodes dites traditionnelles de répétition mécanique, puisque le tout, le verbe tout, donc le qui fait partie de ce mouvement, donc tout, a le double sens de lire et d'apprendre par cœur. Donc il s'agit en fait à la fois de lire, de réciter en psalmodiant en quelque sorte. Là vous avez en fait des techniques qu'on retrouve en fait dans d'autres écoles qui se réclament d'autres mouvements religieux ou de spiritualité. J'imagine un petit peu le même genre d'exercice dans les écoles talmudiques ou les écoles coraniques. Donc cette technique donc de récitation, mémorisation, psalmodie, apprentissage par cœur donc des classiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait apprendre donc aux enfants? Ce sont des compendias, des textes qui sont spécialement. On commence par des compendias qui sont spécialement conçus pour les enfants, qui sont en général courts, rythmés, donc avec un rythme généralement trisyllabique. Donc, ça va par trois. Par exemple, Ren Zhi Chu, Xing Ben Shan, etc. Ça vous remet en mémoire justement en fait ces slogans, donc enfin plus exactement ces phrases des entretiens de Confucius qu'on a transformées en slogans. Et je pense qu'on a choisi ces phrases-là pas tout à fait au hasard, puisque beaucoup justement ont un rythme trisyllabique, comme on l'a vu. Donc vous avez justement dans ces petits compendias donc trisyllabiques, par exemple le San Ziting, donc le classique à trois caractères. Le Tianziwen, donc le texte à 1000 caractères, le Tizikui, etc., les règles pour les jeunes et tout ça, et bien sûr donc le Yu. Et alors là, vous avez une photo tout à fait parlante, également extraite de Perspectives chinoises, où vous avez donc une affiche qui est une affiche pour la promotion justement de ce mouvement de lecture des classiques par les enfants. Vous voyez une petite fille, donc vous entrevoyez les couettes ici, petite fille très très jeune donc, qui tient donc un volume du Luan Yu, donc les entretiens de Confucius, et donc le cartouche donc sur le côté pose la question. C'est la petite fille qui est censée parler, donc ni tu Luan Yu le ma, c'est-à-dire est-ce que tu as lu, mais lu dans le sens justement appris par cœur, est-ce que tu connais par cœur tes entretiens de Confucius? Donc là, évidemment, ça a tendance à vous interpeller, parce que quand vous avez le sentiment de ne pas connaître les entretiens par cœur, vous ne vous sentez pas très bien. Nous avons ici l'utilisation d'une mnémotechnique qui est, ça va sans dire, peu favorable au développement de l'esprit critique et de la créativité. mais ça n'est pas pour rien que est visée particulièrement donc cette tranche d'âge entre en gros 4 et 13 ans, hein, où même selon les sources classiques, l'enfant est censé avoir beaucoup de mémoire et peu de capacité de compréhension. Autrement dit, là, ce qui est attendu des enfants, ce n'est pas qu'ils comprennent le texte, hein, c'est qu'ils l'assimilent par cœur, hein, quitte à éventuellement le comprendre plus tard. Hein, mais ce qui est important, c'est qu'ils sachent donc le réciter de manière assez mécanique. Mais ce qu'on espère quand même dans le processus, c'est qu'ils permettent donc l'inculcation au passage de préceptes moraux. Hein. Le but étant donc de former un petit être humain donc vertueux et moral. Alors donc sur ce plan éducatif, les entretiens de Confucius retrouvent en quelque sorte d'une certaine façon donc un rôle qu'ils ont joué au début de l'ère impériale sous les Han, hein, comme on va le voir. Puisque sous les Han, le Luoyu n'était pas encore le classique qu'il est devenu plus tard et était encore largement considéré comme un manuel d'éducation élémentaire, c'est-à-dire un manuel, disons, d'éducation morale pour la petite école et une initiation élémentaire à la lecture des classiques. Donc on pourrait considérer que cet aspect-là de l'utilisation des entretiens donc, est une sorte de réactivation d'une tradition existante. Bon, le seul problème, c'est que les compendia, spécialement conçus pour enfants dont je vous parlais précédemment, en fait, sont des compendia qui sont beaucoup plus tardifs. Hein, et comme d'habitude, nous observons que la réactivation, la réappropriation de la tradition est en général la référence à une tradition relativement récente. Donc là, c'est quelque chose qu'on observe, je pense, dans tous les fondamentalismes. Hein, c'est que, en fait, la tradition auquel il se réfère, en fait, est en général plutôt récente. Alors, ce que je dois préciser au passage, c'est que cet engouement pour la lecture des classiques ne concerne pas que la petite enfance. Puisque nous voyons se multiplier donc des initiatives qui s'adressent donc à des adultes, et notamment on voit grandir parmi donc les étudiants des universités l'engouement pour la culture classique. Et là, je parle d'étudiants en fait qui ne sont pas spécialistes, hein, de l'histoire intellectuelle chinoise, hein, et encore moins donc des classiques confucéens. Hein. Là, nous voyons en fait la montée en puissance d'une volonté de réappropriation de la tradition intellectuelle qui a des connotations nationaliste, hein, puisque nous avons ici, là il faut que j'essaye de retrouver donc mon tableau ici. Je pense que j'ai dû mettre l'expression quelque part sur le tableau. Oui, voilà. Alors donc vous avez ici cette expression donc d'études nationales, hein, Guo Xue. Alors ce phénomène du retour du Guo Xue est là aussi quelque chose de très complexe. C'est une espèce de nébuleuse qui recouvre pas mal de réalités assez diverses et même quelquefois contradictoires. Mais on le voit donc notamment justement se développer dans bon nombre d'universités, hein, qui proposent maintenant des cours extra-curriculaire, hein, donc hors cursus, mais qui attire maintenant des centaines d'étudiants. Alors, non seulement ils attirent des étudiants, mais on voit s'organiser également dans le cadre universitaire des stages intensifs de classes d'études nationales, hein, des Guoshepan, hein, qui sont destinés donc à des cadres, des responsables d'entreprises, des hommes d'affaires. Alors, inutile de vous dire que ces stages sont payants, hein, et même très payants. C'est-à-dire que bon, il coûte assez cher évidemment pour ceux qui y participent, et naturellement c'est une source de revenus non négligeable pour les enseignants qui dispensent donc ces cours. Et donc là, nous avons affaire à des universités, enfin les toutes premières du pays, hein, qui sont extrêmement cotées en raison de leur qualité d'enseignement, comme l'université de Pékin, hein, Peita, et l'université Tsinghua, donc à Pékin. Donc là, ce sont ces universités-là qui ont lancé le mouvement. Alors, à côté de cela, vous avez aussi des initiatives, comment dire, extra-universitaires, comme celle de la Yitan Xuetang, c'est-à-dire donc l'école Yitan. Alors, j'attirerai votre attention justement sur cette dénomination de Xuetang, c'est-à-dire littéralement de hall réservé à l'étude, hein, qui est un terme ancien, hein, pour désigner donc un endroit où on enseigne, hein, donc cette dénomination est choisie à dessein pour se démarquer par rapport justement aux universités de type occidental, c'est-à-dire aux Tashue, hein, c'est-à-dire littéralement aux grandes écoles de type occidental. Alors, cette Yidan Xuetang a été fondée donc par un ancien étudiant, un ancien étudiant de Peida, justement, de l'université de Pékin, qui en 2001 a créé cette initiative. Alors, c'est intéressant de voir que cet étudiant qui s'appelle Peng Fei, hein, s'est d'abord intéressé à la philosophie occidentale. Donc, il a étudié la philosophie occidentale dans le cadre universitaire à l'occidental, donc de l'université de Pékin, avant donc de créer sa propre structure. Alors, cette structure est destinée à former des étudiants chargés justement de la mission, hein, ensuite d'enseigner à leur tour justement cette fameuse lecture, apprentissage des classiques dans les écoles primaires. Hein. Et alors, cette formation s'accompagne aussi de velléités donc de vie communautaire, hein, avec certaines ritualisations donc de cette vie communautaire, comme ça se faisait dans les anciennes académies, hein, les shuyuan, les académies donc néo-confucéennes, où le maître et les disciples donc vivaient ensemble et donc lisaient, commentaient et pratiquaient donc les classiques donc en communauté. Donc ici, le discours de ce genre d'initiative donc non officielle, hein, donc en dehors de la structure universitaire officielle, eh bien de non pas de transmettre un contenu de connaissances comme on fait à l'université, mais de transmettre plutôt un enseignement de sagesse. Et tout cela en ayant pour objectif justement une renaissance culturelle qui, à terme, devrait amener donc une renaissance nationale. Et donc Peng Fei dit clairement, sa manière justement de parler de son initiative, que il organise des séances de lecture matinale des classiques dans des parcs. Ce sont des séances en fait qui sont précédées en général d'exercices gymniques pour développer la respiration, pour se mettre déjà dans une bonne condition pour ensuite aborder l'esprit des classiques. Et ces séances donc sont ouvertes aux promeneurs. Donc là, c'est vous passez là par hasard et vous pouvez vous agréger donc à ces séances. Alors Pongfei dit clairement que l'un des objectifs de ces lectures matinales, c'est de parvenir à unir notre connaissance et nos actes. Donc là, nous sommes dans quelque chose qui tente à incorporer finalement l'esprit des classiques. Nous ne lisons chaque semaine qu'un chapitre des entretiens de Confucius. Nous le lisons et le relisons pour arriver à l'intégrer dans notre cœur et à être à même de le réciter. En établissant ainsi doucement un lien entre notre quotidien et les passages des entretiens, ces passages innervent alors véritablement notre vie. Donc là, vous voyez que nous sommes dans un projet qui se distingue à la fois donc du projet donc purement cognitif donc des universités, mais aussi qui se distingue des séminaires de management, comme on dit élégamment en français maintenant, qui sont dispensés dans les entreprises occidentales et qui, évidemment, se gargarisent de classiques chinois comme l'art de la guerre et qui visent en fait à une meilleure efficacité dans le management. Ici, c'est pas du tout ça qui est visé, même si ces stages concerne également, comme je le disais tout à l'heure, des hommes d'affaires ou des entrepreneurs. Il s'agit pour tous ces gens véritablement de revenir à une recherche d'accomplissement existentiel ou spirituel. J'imagine que beaucoup d'entre nous sommes là aussi ici pour ça, je pense. Pour ces gens-là, Confucius est de toute évidence pas du tout en fait un simple penseur qu'on intègre enfin dans une histoire intellectuelle perçue objectivement, mais c'est un véritable saint. C'est un sage suprême ou un saint, un shengren en termes chinois. Et alors, on voit que actuellement, ce retour des textes classiques. Je viens de vous montrer comment ça concerne en fait tout le système éducatif, de la maternelle, du primaire jusqu'au niveau universitaire, mais on le voit aussi se diffuser en fait plus largement dans le corps social, puisque dans des milieux sociaux extrêmement éloignés des élites intellectuelles, c'est-à-dire dans des milieux villageois, ouvriers ou bureaucrates, des employés d'usines, etc. On voit se former des petits groupes d'activistes, la plupart du temps autodidactes, qui remettent à l'honneur à leur façon et avec les moyens du bord une instruction basée donc sur les classiques, avec une édification morale à la clé et justement très important des pratiques de rites communautaires que on reconstitue un petit peu comme on peut de briques et de brocs. Donc là, en fait, il s'agit de, au fond, de reconstituer un tissu social et culturel qui a été, détruit en fait par justement toutes les révolutions et les entreprises de destruction donc du XXe siècle. Et donc, le paradoxe, évidemment, de ces manifestations populaires, c'est qu'elles trouvent une diffusion extrêmement large et efficace grâce à Internet, dont j'ai eu l'occasion, je crois, à plusieurs reprises, de souligner l'importance donc, comme moyen de communication et de diffusion donc, dans la Chine actuelle. Et donc, grâce à Internet, ces initiatives qui sont a priori ponctuelles et disséminées un petit peu partout donc, peuvent constituer des réseaux et donc permettent justement d'essayer de retrouver donc une forme de ritualisme incarné qui s'exerce dans un cadre familial ou communautaire et qui évidemment, et alors là c'est une des grandes questions qui reste à l'arrière-plan justement de ce genre de mouvement, qui tente évidemment à court-circuiter la construction d'un espace proprement politique. Nous revenons constamment justement à cette problématique. Et l'autre grande question qui se profile en arrière-fond, c'est que on est en train justement d'assister à la question est justement, est-ce qu'on est en train d'assister à une reconfucianisation de la société chinoise? Ça, c'est évidemment la grande question qui se pose actuellement, mais dont on se demande si elle est véritablement réalisable, ne serait-ce que du fait de la politique de l'enfant unique. Parce que si vous voulez recentrer justement le lien social sur, disons, le milieu familial, là, il faut quand même en fait prendre en considération le fait que le milieu familial n'est plus ce qu'il était, ne serait-ce qu'il y a une génération. La politique de l'enfant unique, donc du moins en Chine continentale, est quand même passée par là entre-temps. Et comme vous le savez, les médias occidentaux s'en sont assez fait l'écho. Actuellement, vous avez donc un nucléus familial qui est réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire donc un petit peu justement à la manière occidentale, c'est-à-dire donc vous avez l'enfant unique avec donc au-dessus de lui le père et la mère, et puis les grands-parents de chaque côté. Donc vous avez en fait 6 adultes pour un enfant. L'enfant unique sur lequel évidemment en fait ces 6 adultes placent toutes leurs espérances, toutes leurs frustrations, etc. Donc avec une pression énorme sur cet enfant. Alors jusqu'ici le schéma c'était justement de tout faire pour pousser cet enfant à des études les plus avancées possibles dans le cadre scolaire et universitaire donc à l'occidental. Et maintenant vous avez donc dans certaines familles donc une certaine réaction par rapport justement à cette ambition. Maintenant en plus d'un être avec une tête bien pleine, on veut en plus un enfant vertueux et moral qui sera en particulier prêt donc à servir ses vieux parents au moment où ses vieux parents se rendront compte que leur retraite ne leur permet pas un très grand confort. Hein. Donc ils vont évidemment compter justement sur ces enfants extrêmement vertueux et filiaux pour s'occuper d'eux. Hein. Bon, donc là, vous voyez comment essaye reconstituer donc un lien social, mais sur vraiment de nouvelles bases. Encore une fois, je suis obligée de m'arrêter ici. La prochaine fois, donc nous continuerons donc sur à la fois donc le terrain médiatique et sur le terrain intellectuel, hein, concernant ce retour des entretiens de Confucius. Merci de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.